Les archives d'Afrique à la Foka.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
L'Algérie, à cette époque-là, à ce moment précis, avait besoin d'une équipe d'hommes qui connaissent la réalité, qui n'a pas été déphasée, donc n'a pas été éloignée du terrain du combat, qui a connu une certaine continuité dans l'action. Une équipe qui était en mesure de dire non et d'imposer certaines mesures de redressement.
C'est pour imposer ces mesures de redressement que seulement 3 ans après avoir contribué à installer Ahmed Ben Bella à la tête de l'Algérie, il choisit de le renverser en ce 19 juin 1965. Il estime qu'il n'a pas rempli sa mission, qu'il la joue trop perso. Cette nuit, ils l'ont mis aux arrêts. Il est, à partir de ce moment, le seul maître à bord du navire Algérie, même s'il refuse de se présenter ainsi.
Le 19 juin, pour moi, c'était une sorte de réajustement révolutionnaire. Oui. On a qualifié le 19 juin de coup d'État. Je n'arrive pas à suivre une certaine logique, parce que les mêmes forces qui ont installé le pouvoir qui a été qualifié avant le 19 juin de pouvoir socialiste, ce sont ces mêmes forces qui ont pris leurs responsabilités le 19 juin pour apporter un correctif.
Un correctif qui lui donne tous les pouvoirs. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Wari Boumdiène, le second président de l'Algérie indépendante. À partir de ce 19 juin 1965, l'Algérie exubérante, avec les rhétoriques révolutionnaires, va progressivement laisser place à une Algérie austère, disciplinée et presque monacale. Wari Boumdiène se contente de son salaire de colonel. Discret mais efficace, timide mais fier, généreux mais exigeant, il veut donner un nouveau style, une autre perception des dirigeants aux populations algériennes.
La vérité est que je suis un militant révolutionnaire. Simplement un militant révolutionnaire.
Lagdar Brahimi, ancien ministre des Affaires étrangères d'Algérie.
Au début, il voulait se montrer comme le contraire de Ben Bella. Caché, tout seul. C'est ça l'image qu'il a voulu donner de lui-même. Mais je crois qu'on a assez rapidement vu que c'était une tête bien faite.
Bien avant son accession à la tête du pays, l'Algérie était une république sous un régime de parti unique, le FLN, le Front de Libération Nationale. Il va suspendre la constitution et concentrer sous lui l'essentiel des pouvoirs. Il cumule les fonctions de président, premier ministre, ministre de la Défense et président du FLN. Le Parlement lui est entièrement acquis. Il s'est fixé 3 objectifs. Construire l'État, parfaire l'indépendance politique par la récupération des richesses nationales et poser les bases du développement économique. En 1967, le Conseil de la Révolution, pouvoir politique officiel composé de 25 membres, instaure les Assemblées Populaires Communales, les APC, et les Assemblées Populaires des Wilaya, APW, en 1969. Il s'agit de construire une pyramide institutionnelle partant de la base, les APC et les APW devant promouvoir une démocratie directe. Bachir Boumaza, ancien ministre du Travail et de l'Économie de 1962, à 65.
Le pouvoir personnel de M. Boumdiène était autrement plus fort, plus important, plus implanté que celui de Ben Bella. Ce qui fait qu'un an et demi après, je suis parti parce que nous avons renversé un homme pour le pouvoir personnel et voilà qu'on pratique du bembellisme sans Ben Bella.
En réalité, ce durcissement du système ne lui fait pas que des amis, même au sein de l'armée. 14 décembre 1967. En pleine nuit, des chars font mouvement sur Alger, à partir de Chlef. Objectif, livrer bataille aux troupes de Boumdiène et s'emparer du pouvoir. Le meneur est un général fidèle au président, Tahar Biri, chef d'état-major, celui avec qui il a exécuté 2 ans plus tôt le putsch pour renverser Ahmed Ben Bella. C'est lui qui a d'ailleurs été chargé cette nuit, du 19 juin 1965, d'aller mettre aux arrêts l'ancien président. C'est donc un fidèle de la première heure, dès 1962. Après le putsch donc de 65, il a naturellement conservé son poste stratégique de chef d'état-major de l'armée. Mais depuis quelque temps, entre les deux hommes, la distance s'est creusée. Taras Biri accuse Boumediene, je cite, de prédilection individuelle, d'improvisation et de tentative de frapper l'unité de l'armée et même de monopolisation des postes. En fait, dit-on, Boumediene s'apprête à le relever de son commandement. Tout chef d'état-major qu'il est, Boumediene passe désormais outre son avis et ne le consulte plus, à la différence de Ben Bella. Alors le commandant Taras Biri engage les hommes de l'état-major dans une rébellion. Il a de son côté Chérif Mehdi, le commandant Amar Malla, les capitaines Ousnia, Mahamar Kara, Abdeslam Merbakia et d'autres lieutenants. Les chefs de la Wilaya 4, le colonel Youssef Khatib et le commandant Lardar Bouraga. Il s'est assuré leur soutien. Il reçoit même la caution politique, selon lui, de Youssef Ben Khrouf et de Mahmed Yazid. Il engage alors ses bataillons de Blida sur Alger. Seulement, Boumediene, ayant été informé de l'insurrection armée par certains de ses acteurs mêmes, a pris des dispositions pour la faire échouer. Il a été informé par certains officiers, dont un certain commandant Chadli Benchedid, qui deviendra bien des années après président de l'Algérie. Mais ceci est une autre histoire. Les bataillons qui avancent sont bloqués sur le pont de la Mouzaïa par une opération escargot de milliers de véhicules civils.
En Algérie donc, une tentative de coup d'état localisé a avorté la nuit dernière. Le président Boumediene, qui a décidé ce matin d'assurer personnellement le commandement de l'armée, l'a annoncé tout à l'heure dans une allocution radio-télévisée capté par nos services techniques.
Peuple algérien, le complot a échoué. Notre révolution a triomphé de toutes les entraves et elle reste fidèle à son idéal qui se résume dans la justice et la paix. Notre révolution triomphe aujourd'hui comme elle triomphera demain sur tous les criminels. Le défi lancé au génie d'un peuple dans sa totalité ne restera pas impuni. Le châtiment sera proportionnel aux responsabilités.
Le putsch a échoué. Le châtiment va en effet être proportionnel aux responsabilités. Elle va offrir l'occasion de procéder à une véritable purge politique. Si certains officiers mutins sont froidement tués ou exécutés et d'autres poussés à la démission, Sbiri, lui, a réussi à s'enfuir. Il se réfugie en Tunisie. Mais il ne renonce pas pour autant à faire la peau au président Wari Boumediene. Mercredi 24 avril 1968, il remet ça. Le conseil des ministres vient de se terminer au palais du gouvernement, en plein cœur d'Alger, à un jet de pierre de la Grande Poste. Le chef de l'État Wari Boumediene est invité à déjeuner chez le ministre Rabat Bitta. Les deux hommes s'engouffrent dans la voiture présidentielle. Détendu, Boumediene plaisante avec son chauffeur, Naïd Marzouk El Hachmi. On est invité aujourd'hui, et celui qui nous invite est assis à mes côtés, dit-il. Il est 12h55. Le véhicule contourne la grande bâtisse blanche où se réunissent des membres de l'exécutif tous les mercredis. Dans un virage, deux policiers de la Compagnie nationale de sécurité sont postés de chaque côté de la chaussée. Quand la voiture arrive à leur hauteur, le conducteur tourne instinctivement la tête vers celui de gauche et le voit dégainer son arme et appuyer sur la détente. L'arme s'enraye. Le second policier se met à tirer en rafale. Panique à bord. Tandis que Naïd Marzouk se retourne pour faire baisser sa tête au président, une balle le touche en plein visage. Elle entre par la joue droite. Le chef de l'État, lui, est atteint à la joue gauche. Les tireurs sont ensuite interceptés et le président est évacué à l'hôpital Maillot. En attendant de passer sur le billard pour que la balle soit extraite, Boumediene reçoit la visite de deux ministres. Le sourire aux lèvres, crispé, il lance « J'ai la peau dure ». En français dans le texte, le président algérien vient d'échapper, in extremis, à une tentative d'assassinat, après avoir évité un putsch quelques mois plus tôt. Dans les deux cas, Taras Biri est à la manœuvre. Le climat politique est dégradé. Les services de sécurité n'ont cessé d'alerter le président. Kasdi Merba, le patron de la sécurité militaire, l'a exhorté à recevoir ses ministres au palais d'El Mouradia, plutôt que de descendre chaque semaine à leur rencontre dans le centre de la capitale. Réponse du chef de l'État, c'est le Mektoub, le destin. Tu as vu Kennedy ? Il était à la tête d'un pays puissant, cela n'a pas empêché un homme de lui tirer dessus. Ce jour d'avril 1968, le tireur n'était pas Lee Harvey Oswald et Boumediene n'était pas Kennedy. C'est peut-être ce qui lui a sauvé la vie, ainsi que celle de ses assaillants. Condamnés à mort, ils ne verront jamais le président signer l'arrêt d'exécution. L'idéologie de Waré Boumdiène se résume en trois points. Révolution de l'agriculture, révolution de l'industrie et révolution culturelle. En 1968, Waré Boumdiène réussit à faire évacuer la base militaire occupée par la France à Mers-el-Kébir, dans l'Oranie.
Le grand pavois sur les navires et embarcations dans le port de la Ciotat saluait hier dimanche l'arrivée de la statue de Saint-Michel de Mers-el-Kébir, statue chère au cœur de bien des rapatriés d'Oranie, statue qui sera désormais placée dans une église ciotadenne. C'est dire que plusieurs centaines de rapatriés ont assisté, ainsi que de nombreuses personnalités à la messe, suivie d'une procession conduite par le clergé à un groupe folklorique avant la bénédiction qui a eu lieu dans le port ciotadin.
Sur le plan économique, Waré Boumdiène opte pour le modèle socialiste et fait construire sur la base de ce choix beaucoup d'usines et d'écoles. Il s'agit pour lui de donner un tissu industriel à l'Algérie. Sid Ahmed Ghazali, ancien premier ministre algérien.
L'Algérie arrivait à fabriquer des tracteurs, à fabriquer de l'acier, peut-être à un prix qui n'était pas très compétitif, mais on a essayé à faire en sorte que l'Algérie puisse fabriquer elle-même, pas tout ce dont on a besoin, mais qu'elle ne soit pas sur le marché international uniquement un exportateur de matières premières et un importateur de produits fabriqués.
Lakhtar Brahimi, ancien ministre algérien.
L'électrification, en 79, pratiquement tous les villages d'Algérie avaient reçu l'électricité.
Sid Ahmed Ghazali.
L'Algérie de Boumdiène, il n'y avait pas de chômeurs. Il y avait une classe moyenne qui s'était formée, il y avait un niveau social. Et il y avait surtout une espérance.
Anissa Boumdiène, son épouse.
L'Algérie a été le premier pays du continent arabo-africain à lancer une industrie pétrochimique. Si maintenant les pays du Moyen-Orient ont de grandes rentrées pétrolières, c'est grâce à l'Algérie et grâce à la décision de Boumdiène de nationaliser les hydrocarbures.
La nationalisation des hydrocarbures, un moment historique, un temps fort du règne de Waré Boumdiène. Petit rappel historique. Lorsque l'Algérie accède en 1962 dans les conditions de tension que nous avons évoquées dans cette série d'émissions à l'indépendance, sa souveraineté sur le Sahara et ses richesses naturelles est reconnue par les accords de concession renouvelés par l'accord d'Alger le 29 juillet 1965. Ces accords stipulent que les sociétés Total et Elf doivent reverser à l'État algérien une partie de leurs bénéfices sous forme d'investissement ou d'impôts directs. La création de la Sonatrach le 31 décembre 1963 ouvre un nouvel horizon aux intérêts français. Alger détient alors 4,5% des périmètres d'exploration quand les valeurs françaises atteignent 67,5%. Après la guerre des six jours en juin 1967, l'Algérie prend la décision de nationaliser les activités américaines de raffinage, distribution de Mobil et Esso. En août 68, la Sonatrach bénéficie d'une série d'opérations qui lui donnent le monopole de la commercialisation de produits pétroliers et le contrôle de l'ensemble du secteur pétrochimique. En réalité, ces accords pétroliers sortis de l'indépendance bénéficient largement à la France qui tire de colossaux bénéfices du pétrole algérien. Évidemment, les nationalistes ne peuvent l'accepter sur la durée. Après donc la nationalisation des activités américaines de raffinage, distribution de Mobil et Esso, la pression s'accentue sur les compagnies françaises. Ceci d'autant plus qu'en 1969, le pétrole algérien représente 20% de la production de Total et 79% de la production d'Elf. Près du tiers du pétrole utilisé par l'économie française provient des gisements sahariens, avec 25,4 millions de tonnes, ce qui fait de l'Algérie le premier fournisseur de la France, loin devant l'Irak et la Libye. Les pouvoirs publics algériens accentuent donc la pression, mais les autorités françaises résistent. Les négociations sont tendues. Au 30 janvier 1969, la redevance de l'impôt pour les sociétés françaises doit faire l'objet d'une révision, mais est repoussée. Le ton se durcit. Le pétrole est l'un des aspects importants du principe de la récupération des richesses nationales. Le 24 février 1971.
Yanas. يعني اللياقه تقتضي بين الارباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول اللي ربحتوها من الجزائر لازم تحاولوا على الاقل باش تصرفوها لهن في الجزائر في سنه 70 اعلنا كذلك
Il serait plus équitable pour les investissements dans la recherche pétrolière que les profits réalisés dans notre pays soient au moins dépensés sur place. Signé Boumediene. À compter de cette date, l'ensemble des gisements naturels de gaz et du pétrole, tout comme les oléoducs et les gazoducs, sont nationalisés. Les Français ne voulaient pas rediscuter le prix. Nous avons donc pris la décision, en tant qu'État souverain et libre, de fixer les prix nous-mêmes. À partir de ce jour, le prix du baril passe de 2,08 dollars à 2,85 dollars. Cette décision surprend Paris, qui ne pensait pas vraiment que Boumediene irait au bout de son idée. C'est la crise entre la France et l'Algérie. Pour Sitt Ahmed Ghozali, qui est à ce moment-là le directeur général de la Sonatrach, cette décision est la juste réponse à cette situation d'exploitation des richesses algériennes.
Les rapports pétroliers entre la France et l'Algérie sont des rapports entre deux États souverains qui commercent entre eux, qui connaissent chacun leurs propres intérêts. Si ces rapports sont conçus selon des thèmes d'équilibre où chacun trouve son compte, sur l'équité, sur un partage équitable des revenus pétroliers, alors ils ne peuvent que durer. S'ils sont conçus sur des rapports de domination, s'ils sont conçus sur la notion de détournement au profit des sociétés pétrolières d'une richesse qui est quand même un don de la nature à l'Algérie, alors ils ne peuvent durer que ce que peuvent durer les fruits de rapports de force. L'Algérie, qui est un État souverain, qui a lancé chez elle tous les moyens pour se constituer une économie prospère, une économie indépendante, est parfaitement ouverte à cette coopération, si j'ai bien compris. Le désir de la France est de s'assurer un approvisionnement constant, sûr, sur le plan de la stabilité, intéressant sur le plan économique en pétrole. Ce désir est parfaitement conforme à la volonté de l'Algérie d'arriver quand même sur un marché qui est très important, un marché qui est très proche de notre pays et un marché sur lequel nous entendons nous aussi arriver dans des conditions compétitives. Si le gaz algérien arrive de manière compétitive aux États-Unis, c'est-à-dire après avoir traversé l'Atlantique, il n'y a pas de raison pour qu'il n'arrive pas en France, qui est un pays beaucoup plus proche que le nôtre, dans des conditions compétitives aussi. La même remarque est faite pour le pétrole que nous vendons soit à l'Angleterre, soit à l'Allemagne, soit à des pays d'Amérique latine.
Pour M. Desmargnes, le directeur général d'ELF, le pétrole algérien est davantage celui de la France.
Bien mon Dieu, les réalités sahariennes sont bien connues des Français, puisqu'ils ont suivi avec intérêt et quelquefois avec passion ce que l'on a appelé l'aventure saharienne, qui a permis d'atteindre ces réalités à partir des premières découvertes de 1956. Il faut bien voir qu'à cette époque, au Sahara, il n'y avait rien, ou presque rien, des pistes, quelques points d'eau. Et alors qu'aujourd'hui, on y rencontre des routes, de nombreux équipements industriels, des bases ombragées et bien d'autres choses. Il n'y a pas besoin de longs discours pour imaginer la somme d'efforts financiers et surtout d'efforts humains que cela représente.
En devenant le propriétaire exclusif des richesses du sol et du sous-sol, l'État algérien abandonne le système de concession au profit d'une prise de contrôle à 51% des deux sociétés pétrolières françaises présentes. ELF, anciennement ERAP, et Total, CFP. Suite à cette décision, seul Total implanté sur le territoire algérien depuis 1952 va rester en Algérie. Mais la crise n'est pas terminé. Paris va réagir assez fermement, comme nous le verrons dans une dizaine de minutes, dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Wari Boumediene. Le président algérien a décidé de récupérer les richesses de son pays, mais également de devenir un des leaders du tiers-monde. On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.
Archives d'Afrique, à la FOCA.
Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Le monde actuel est un monde injuste. Aujourd'hui, nous parlons avec beaucoup de simplicité. Aujourd'hui, nous existons. Et nous contestons ce monde. C'est pas notre monde. Nous voulons créer un monde nouveau. Un monde qui ne sera pas contre les, ce qu'on appelle aujourd'hui les pays riches ou les pays industrialisés, mais un monde qui prendra en considération les intérêts des pays riches, les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays développés et les pays en voie de développement. Sinon, c'est l'impasse.
Yanas, يعني اللياقة تقتضي بين الأرباح نتاعكم اللي تحبوا تصرفوها على البحث عن البترول اللي ربحتوها من الجزائر لازم تحاولوا على الأقل باش تصرفوها لهن في الجزائر.
Il serait plus équitable pour les investissements dans la recherche pétrolière que les profits réalisés dans notre pays soient au moins dépensés sur place. À compter de cette date, l'ensemble des gisements naturels de gaz et du pétrole, tout comme les oléoducs et les gazoducs, sont nationalisés. Karna Taemin El Mahoukhat. Nous avons décidé la nationalisation des hydrocarbures. Cette option surprend Paris qui ne pensait pas vraiment que le président Boumdjian irait au bout de son idée, qui mettrait sa menace à exécution. C'est la crise entre Paris et Alger. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Wari Boumdjian. Le 24 février 1971, cette décision du président Wari Boumdjian met fin à la mainmise de la France sur le pétrole algérien. La Société nationale pour la recherche, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures, Sonatrach, détient le monopole sur l'exercice des activités pétrolières à travers l'exclusivité des permis de recherche et concessions d'exploitation. Après l'annonce de la nationalisation, les entreprises étrangères, quelle que soit leur nationalité, ne peuvent plus investir dans des activités de recherche et de production des hydrocarbures liquides sans y associer la Sonatrach. Pour des raisons fiscales, les entreprises doivent également créer une société de droit algérien afin de bénéficier de ces avantages. Le prix de référence, base de calcul de la redevance et des impôts, est désormais dicté par l'État algérien, ce qui crée un lourd contentieux avec la France. Cette nationalisation réussie confère à Wari Boumdjian une importante dimension internationale. En effet, il a réussi là où l'Iranien Mossadegh a échoué. Cette nationalisation des hydrocarbures algériennes va d'ailleurs inspirer d'autres États. 10 mois plus tard, la Libye nationalise les avoirs de la British Petroleum, la compagnie britannique, tandis que le 1er juin 1972, l'Irak exproprie Iraq Petroleum Company, un autre consortium étranger. Mais c'est la crise diplomatique avec la France qui menace de ne plus acheter du vin algérien, alors que celui-ci est encore la deuxième source de revenus en devise pour le trésor public algérien. Boumdjian en colère décide l'arrachage de milliers d'hectares de vignobles. Une décision qui malgré tout aura des répercussions tant sur le plan économique que pour l'écologie, les vignes freinant considérablement l'érosion des collines. Dès la mi-avril, les sociétés françaises suspendent leurs enlèvements de pétrole en même temps qu'elles invitent l'ensemble des acheteurs occidentaux à s'abstenir de tout achat de pétrole algérien. Mais cette invitation ne va pas avoir de réels impacts sur les revenus pétroliers algériens qui vont au contraire considérablement augmenter. Le succès des nationalisations va conférer à Wari Boumdjian une importante dimension internationale.
Plus de 70 pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, 14 mouvements de libération. C'est en fait la moitié de la population du globe qui sera représentée demain au 4e sommet des pays non alignés qui se tiendra au palais des congrès à 25 km d'Alger. Les précédents sommets avaient eu lieu à Belgrade en 1961 en pleine guerre froide, puis au Caire en 64 et enfin à Lusaka en 1970. Alors que le monde était plongé dans la guerre froide, le non-alignement avait été inventé par Tito, Nasser et Nehru pour éviter que des pays comme les leurs soient entraînés par l'un ou l'autre bloc dans une conflagration mondiale. Aujourd'hui, la situation a bien changé. Avec l'entente qui s'instaure entre supergrands, l'image de la division du monde en bloc communiste et bloc capitaliste s'est estompée pour mieux laisser apparaître celle de la division entre pays riches et pays pauvres. Et, il faut bien le souligner, ce fossé ne cesse de s'élargir au détriment des pays sous-développés qui détiennent pourtant la moitié des ressources de l'humanité. Le tiers-monde a pris conscience de ce problème. Il veut s'opposer à cette domination économique par les grandes puissances. Il lui reste donc à trouver les moyens pour y parvenir. Et c'est ce que vont tenter de faire les chefs d'État ou de gouvernement réunis à Alger. Sur le plan économique, ils voudraient en effet mettre au point une stratégie destinée à éviter que les nations riches ne continuent de s'enrichir sur leur dos. Des richesses que produisent leur sol ou leur sous-sol, ils veulent en être les maîtres et ne plus les vendre à un prix qu'ils estiment trop bas. Les producteurs de pétrole pourraient tenter de constituer un front commun, sont là pour rappeler aux citoyens que les non-alignés condamnent l'agression, le colonialisme et l'impérialisme. Qu'ils réclament aussi le démantèlement des bases étrangères et enfin d'autres slogans appellent le peuple à l'unité et à la solidarité. Rendez-vous du tiers-monde, décoré de 1000 drapeaux, Alger connaît une véritable ambiance de fête. Le spectacle est dans la rue. Chacun semble tirer fierté de la participation de tant de chefs d'État à ce 4e sommet des non-alignés. Mais justement, parce qu'ils sont aussi nombreux, qu'ils représentent des pays dont les intérêts divergent, ces chefs d'État pourront-ils seulement s'entendre? C'est là une question que l'on peut se poser.
Ainsi, en 1973, Wari Boumdjian va avoir l'occasion d'affirmer sur la scène planétaire son influence en organisant, avec succès, le sommet des non-alignés où se retrouvent les plus grands dirigeants du tiers-monde de l'époque.
Cette affaire des terroristes palestiniens avait mis ces derniers jours au deuxième plan de l'actualité la conférence des pays non-alignés d'Alger. Pourtant, on oubliera vite la prise d'otage à l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris, alors que les résultats de cette conférence d'Alger auront des conséquences importantes. Ce sommet d'Alger a été prolongé jusqu'à demain pour permettre à tous les chefs d'État de prendre la parole. Les résolutions qui seront votées porteront notamment sur la position des pays non-alignés envers Israël et sur la définition même de ce que l'on appelle le tiers-monde.
Les non-alignés d'Alger s'apprêtent ce soir à attaquer une séance marathon. C'est simple, une soixantaine de discours étaient attendus, un peu plus de 40 ont été prononcés. Il reste à entendre ce soir 18 interventions de chefs d'État. On va y passer la nuit et la séance de clôture a été repoussée à demain midi. Certains discours durent une heure et demie, il y en a même eu de deux heures, de plus de deux heures. Mais les ténors sont passés et l'on peut dire ce soir que la conférence a été dominée par quatre hommes. Castro, Kadhafi, Boumedien et Arafat. Castro, parce qu'il est venu défendre l'Union soviétique et qu'il a osé dire, contrairement à Boumedien, le monde n'est pas divisé entre riches et pauvres, mais entre socialistes et capitalistes. Kadhafi, parce qu'il a aussitôt dit, Cuba ne devrait pas faire partie des pays non alignés. Le Libyen, mettant toutes les grandes puissances dans le même sac, elles ne tiennent, dit-il, leur richesse que par l'exploitation des autres. Boumedien, parce qu'il ne s'est jamais départi de son rôle de président, conservant son flegme mais un certain détachement à l'image de l'Algérie qui poursuit sa voie. Arafat, enfin, à cause des événements de Paris. Mais il aura obtenu que les pays arabes, excédés par les actions intenses festives des mouvements extrémistes, le soutiennent, lui et l'OLP, démodéré, et renforcent en l'aidant son pouvoir.
Lardar Brahimi, ancien ministre des Affaires étrangères d'Algérie.
Nous avions choisi non-alignement comme idéologie de politique internationale et nous avons réussi, si vous voulez, à nous hisser au niveau des plus grands. Alger, c'était la Mecque des révolutionnaires. Et tous les mouvements d'indépendance avaient des bureaux à Alger. Et Bouteflika, vraiment comme personnage principal, a joué un rôle extrêmement important dans cette politique du mouvement non aligné qui avait un rayonnement considérable pendant les années 60 et 70.
Abdelaziz Bouteflika, justement, était une des pièces maîtresses de cette diplomatie particulièrement offensive. L'Algérie offre son soutien aux différents mouvements de libération d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.
L'Algérie est résolument engagée aux côtés de l'Angola, du Mozambique, résolument engagé aux côtés du peuple du Vietnam, de la cause cubaine, autrefois de la cause de Saint-Domingue, de toutes les causes de la liberté dans le monde.
Cet engagement aux côtés des nations pauvres et des mouvements nationalistes fait de Wari Boumdjian l'un des principaux leaders du tiers-monde. Il se bouscule à Alger pour solliciter son aide. comme l'ambassadeur du Cambodge qui, en entrée d'audience, lui demande la permission de l'embrasser en reconnaissance de son soutien très actif.
Bonjour, monsieur l'ambassadeur.
Je vous demande la permission de vous embrasser.
Oui. Comme volontaire, mon père.
Je ne sais pas, j'attends les instructions, monsieur le président.
Vous avez fini avec les Américains?
Oui, monsieur le président. C'est une part immense que vous avez pris dans cette lutte. Dans cette victoire, monsieur le président.
Je pense que cette victoire entre dans la logique des choses. Que... c'était pas prévu peut-être par les computers.
Oui.
Mais ça a été prévu par le, je crois, les petits cerveaux des gens du tiers-monde.
C'est un véritable héros que Wari Boumdien se déplace à New York en 1974 pour prendre part à une réunion spéciale de l'Assemblée générale de l'ONU sur les matières premières. Assemblée générale qu'il a lui-même convoquée au nom des non-alignés.
En tenant l'essentiel des marchés de consommation des matières de base, ainsi que le quasi-monopole de la fabrication des produits manufacturés et des biens d'équipement, en détenant aussi les monopoles des capitaux et des services, les pays développés ont pu fixer, à leur guise, tant les prix des matières de base qu'ils prennent aux pays en voie de développement que ceux des biens et services qu'ils fournissent à ces derniers. De la sorte, ils se trouvent dans une position où ils peuvent drainer à leur profit et par une multitude de canaux les ressources des pays du tiers-monde. Tel est le fondement de l'ordre économique mondial que nous vivons aujourd'hui. Aux yeux de l'immense majorité de l'espèce humaine, il se présente comme un ordre qui est aussi injuste et aussi périmé que l'ordre colonial duquel il tire son origine et sa substance. Parce qu'il s'entretient, se consolide et prospère selon une dynamique qui sans cesse appauvrit les pauvres et enrichit les riches, cet ordre économique constitue l'obstacle majeur à toute chance de développement et de progrès pour l'ensemble des pays du tiers-monde. Le moment est venu de clarifier ces problèmes et de faire assumer à chacun ses responsabilités. Inscrire l'action de développement dans une dialectique de lutte sur le plan international, compter d'abord sur soi et sur ses propres moyens sur le plan interne, apparaissent donc de plus en plus comme les deux composantes principales de la seule démarche qui s'impose aux pays en voie de développement. Alors que l'homme inaugure la présente décennie par la conquête de l'espace, montrant par cette prestigieuse performance que sa capacité scientifique et technique est à la hauteur des problèmes les plus difficiles posés par la nature, sa carence demeure totale face au drame de la pauvreté et de la misère qui étreignent le monde. Posée depuis un quart de siècle par l'ensemble des nations comme l'une des priorités du monde, le problème du développement devient aujourd'hui la priorité des priorités à laquelle nous devons faire face. Et sans plus attendre, si nous voulons éviter l'éventualité tragique que ce problème ne se transforme un jour en une source de conflagration incontrôlable.
Ce discours historique qui expose un nouvel ordre économique plus juste qui prendrait en compte les intérêts des nations du tiers-monde est le combat de Wari Boumdien.
En Afrique, en Amérique latine, en Asie, les gens sont décidés, les gens sont déterminés à aller de l'avant. Et ce n'est qu'une question de temps. Notre monde, c'est-à-dire le monde des sous-développés, le monde des pauvres, ce monde a pris conscience d'une chose, c'est que l'autre monde ne peut pas se passer de nous. Ne peut pas se passer de nous. Et aujourd'hui, il faut trouver la solution. On a beaucoup parlé de la crise, et on a toujours attribué cette crise au problème de l'énergie. Je crois que les origines de la crise résident dans l'injustice même, dans l'organisation même du monde actuel. Nous sommes les plus nombreux nous sommes le réservoir, un réservoir des matières premières et même de la main-d'œuvre. Nous représentons un marché très vaste pour les industriels des pays développés.
C'est fort de cette conviction que Wari Boumediene durcit le ton vis-à-vis de l'Occident dans cette période délicate de guerre froide. Il a compris le principe du pétrole comme arme économique.
Aujourd'hui, nous sommes pour une politique de dialogue. Nous sommes pour le dialogue. Nous demandons qu'on nous écoute. Qu'on nous écoute. Aujourd'hui, je crois qu'on commence à nous écouter. Qu'on commence à nous écouter et grâce un petit peu au pétrole.
Michel Poniatowski rentrera aujourd'hui d'Alger. Le ministre de l'Intérieur, ministre d'État, a aujourd'hui ses derniers entretiens avec les dirigeants algériens. On reparle de coopération en matière d'énergie, d'industrie, d'enseignement, de recherche scientifique. Ce soir, on devrait connaître la date de la visite officielle de Valéry Giscard d'Estaing en Algérie. Et ce, après la rencontre prévue entre Michel Poniatowski et le président algérien Wari Boumediene. Tout de suite sur place, notre envoyé spécial.
Eh bien, à ce moment même, Michel Poniatowski et Wari Boumediene sont toujours réunis dans le bureau du président algérien, au rez-de-chaussée d'une des résidences de la présidence, une sorte de petit Trianon, mi-colonial, mi-mauresque, et qui semble plutôt invité à la flânerie et au repos. Longtemps, le lieu et l'horaire de ce rendez-vous ont été tenus secrets, car la vie publique et tous les déplacements du numéro algérien sont toujours entourés, pour raison de sécurité, d'un grand mystère. Wari Boumediene, costume de ville et gandoura noir, a accueilli son visiteur devant les journalistes et a même plaisanté avec eux sur une vieille affaire, le contentieux entre l'Aurore et le gouvernement algérien.
Je vois que toute la presse qui est présente, celle favorable à l'Algérie, je pourrais...
J'espère que c'est ça.
Et le reste, ils sont... Le seul représentant de l'Aurore.
Je n'ose pas le dire.
Après cette entrée en matière, les deux hommes ont abordé le vif du sujet, le prochain voyage de Valéry Giscard d'Estaing en Algérie.
Notamment l'attente pour le début du printemps, début mars, il m'a demandé de fixer avec vous la date exacte.
Ce voyage, beaucoup d'Algériens l'attendaient, ils l'attendaient depuis longtemps, ils souhaitaient passionnément le retour en Algérie du général de Gaulle, ils ont ensuite attendu en vain le président Pompidou, et ne cachent pas aujourd'hui leur soulagement de voir au printemps s'effacer de douloureux souvenirs.
Avec l'arrivée de Valéry Giscard d'Estaing à l'Élysée, les relations entre Paris et Alger semblent se réchauffer. Mais jusqu'où? Les douloureux souvenirs évoqués à l'instant pourront-ils être effacés? La révolution agraire promise aux Algériens parviendra-t-il à la mettre en place? Les élections présidentielles qui approchent lui permettront-ils de légitimer son pouvoir? On en parle la semaine prochaine dans la dernière partie de cette série d'archives d'Afrique spéciale Wari Boumediene. Mais vous pouvez évidemment d'ores et déjà réécouter cette émission sur le site du RFI ou sur archivesdafrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Apple Store ou sur Google Play. Vous y retrouverez également tous les personnages marquants de l'histoire contemporaine de l'Afrique dont nous avons parlé jusque-là. Vous pouvez dans le même temps réagir sur notre page Facebook, la première sur notre radio, avec ses 580 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de cette série d'archives d'Afrique consacrée à Wari Boumediene. Restez à l'écoute de Radio France Internationale et à très vite.